Votre invité, Julien, est professeur à l'Université de Bordeaux, co-directeur du think tank Cyclope.
Et spécialiste des matières premières. Bonjour Yves Jégourel.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. C'est un sujet qui devrait être au cœur de l'élection présidentielle, la transition écologique, objectif 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Or, quels que soient les scénarios sur la table, nous allons devoir construire des dizaines de milliers d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques, de batteries, redimensionner notre réseau électrique. Et pour ça, il va nous falloir énormément de métaux et pas forcément ceux auxquels on pense en premier, Yves Jégourel.
Écoutez, la tension est quand même très présente sur ces métaux. Vous avez raison de le dire. La transition environnementale, c'est une entrée dans l'ère des métaux. On a beaucoup pensé aux terres rares. On a beaucoup évoqué ce sujet-là. Effectivement, c'est un problème plus général. On aura besoin de cuivre, on aura besoin d'aluminium, on aura besoin de nickel, on aura besoin de tous ces métaux stratégiques, c'est-à-dire des métaux dont on a besoin d'un point de vue économique et sur lesquels il pourrait y avoir des problématiques de disponibilité important.
Alors l'IFP Énergie Nouvelle a notamment calculé que l'humanité pourrait consommer entre 60 et 90% de nos ressources connues en cuivre d'ici à 2050. C'est colossal.
Tout à fait. C'est un article qui est paru fin 2020 et qui démontre en fait que d'ici à 2050, sous les hypothèses les plus sévères, 90% des ressources connues de cuivre, connues en 2010, devraient être extraites du sous-sol d'ici à 2050.
Pourquoi ce métal est aussi central pour la transition écologique?
Vous l'avez évoqué, nous vivons la transition environnementale, nous vivons la transition numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup plus d'électricité et le cuivre, pour sa conductivité, est incontournable pour cette électricité. Pour vous donner un exemple bien connu, dans un véhicule électrique à moteur thermique, c'est 20 kilos de cuivre dans un véhicule à moteur thermique classique, c'est 20 kilos de cuivre, et pour un véhicule électrique, c'est 4 fois plus. Donc les besoins sont considérables et les ressources sont limitées.
Le cuivre qui coûte ce matin 9 500 $ la tonne, soit deux fois plus qu'il y a deux ans, et c'est encore loin d'être fini. Alors on parle du cuivre, mais il y a aussi énormément de demandes pour l'aluminium ou encore le nickel. Est-ce que vous diriez qu'on est entré dans l'ère du métal cher ?
On est rentré dans l'ère du métal, comme je vous le disais, et on a vu, mais il faut distinguer peut-être les logiques de court terme des logiques de long terme, on a vu des flambées à partir de 2020 sur 2021. Vous évoquiez des métaux que l'on n'évoque pas suffisamment, par exemple l'étain a atteint des records puisqu'on était à plus de 41 000 $ la tonne en novembre. Ensuite, donc ça c'est du court terme, sur le long terme, il va y avoir en fait une endogénéité au niveau des prix, c'est-à-dire que plus le prix d'un métal s'élève, plus on aura tendance d'abord à en rechercher dans le sous-sol, mais également dans les déchets miniers. On a remarqué par exemple que pour le cuivre, on pourrait en trouver dans les déchets miniers, et puis on a aussi une incitation à le substituer. Vous évoquiez également le cobalt dans les batteries des véhicules électriques. On a diminué la quantité de cobalt pour augmenter la quantité de nickel. Donc il y aura de toute évidence des tensions sur les prix, mais attention à ne pas rentrer dans un schéma un peu de catastrophe généralisée.
Oui. Et puis il y a aussi le recyclage, vous n'en avez pas parlé, mais ça se recycle très bien le cuivre.
Oui, alors si, j'en ai parlé parce que justement il y a cette endogénéité sur le niveau des prix, ça se recycle. Après, il est vrai que le cuivre reste longtemps dans les installations.
Ah oui, c'est ça.
Donc
ouais.
ce ne sera pas une solution à tout, et il faut ajouter un élément très important dans notre réflexion sur la transition environnementale, qui est la sobriété à la fois énergétique. Essayons de consommer moins d'énergie, essayons d'être plus efficaces, mais essayons aussi d'avoir une sobriété à la fois sur les transports, on parle bien sûr de transport en commun, et de sobriété sur les métaux. Avoir un SUV électrique, c'est certes un effort par rapport au moteur thermique, mais ça relève, qu'on le veuille ou non, d'une forme de paradoxe environnemental.
Oui, il vaut mieux avoir une citadine électrique, si je suis votre raisonnement. L'autre grand défi, c'est arriver à décarboner l'industrie minière. Vous l'avez esquissé il y a quelques instants. Industrie qui consomme aujourd'hui 12% de l'énergie mondiale, et bien souvent, pour alimenter les fours, c'est du charbon qu'on utilise.
Alors là, vous parlez plutôt de la métallurgie. Effectivement, oui. Il faut décarboner cette production donc de métaux. Il faut faire une différence en fait selon les sources. Nous parlions d'aluminium. L'aluminium est très majoritairement d'origine chinoise, autour de 37 millions de tonnes. Et l'aluminium chinois, c'est du charbon. Ensuite, pour l'aluminium nord-américain ou européen, c'est de l'hydroélectricité. Et donc l'enjeu aujourd'hui incontournable du marché de l'aluminium, c'est l'aluminium bas carbone, et de nombreuses initiatives sont engagées dans ce sens-là.
Mais comment est-ce qu'on va arriver à décarboner cette industrie si dans le même temps la demande mondiale explose ?
Écoutez, on n'a pas le choix parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens en fait de construire une transition environnementale sur des métaux qui eux-mêmes ne respecteraient pas ces critères de la transition environnementale. Et encore une fois, il y a énormément de recherche et développement pour aller vers cette décarbonation. Mais je voudrais insister sur un point qui est que la décarbonation, c'est évidemment quelque chose qui est essentiel, mais c'est toute la performance environnementale de l'extraction et de la production des métaux qui doit être considéré avec une meilleure gestion des déchets miniers, avec une sobriété en eau qui sera également extrêmement importante sur les décennies à venir.
Alors on sait l'Europe très ambitieuse concernant sa transition écologique, les éoliennes fleurissent partout et on commence à voir sortir de terre les premières gigafactories, ces énormes usines de batteries. Tout ça c'est très bien, mais est-ce qu'on s'est assuré, est-ce que l'Union européenne, les différents pays, les 27, se sont assurés au préalable de nos approvisionnements en métaux ?
Alors, vous posez une grande question. Il y a des initiatives qui ont été lancées, ce sont des initiatives fortes qui visent à redynamiser l'industrie minière, qui visent à sécuriser ses approvisionnements en métaux. Je crois néanmoins que l'unité européenne dans ce domaine-là doit être renforcée. Nous n'avons pas de politique des matières premières à l'échelle européenne. Et puis, vous savez, la sécurisation, c'est bien, mais si tout le monde sécurise, on risque de surstocker, par exemple, et donc on risque d'aller vers des frictions internationales et vous en conviendrez, le multilatéralisme n'est pas dans une situation
idéale.
Oui,
sauf que les Chinois, donc, eux, sécurisent de leur côté. Hein. Ça fait 20 ans qu'ils sécurisent leurs approvisionnements.
Exactement, exactement. Donc il faut aller sur cette stratégie-là, mais face à l'avance chinoise, à mon avis, il faut, et c'est ce qui nous manque fondamentalement, réinventer une diplomatie des matières premières.
Merci beaucoup Yves Jégourel. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux, co-directeur de Cyclope et chercheur associé au Policy Center for the New South. Très bonne journée à vous.